Amen et Amen. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Donc ce matin, vous êtes courageux, hein, malgré la pluie, vous êtes là pour recevoir une autre pluie, celle eh bien, que seul le Seigneur est capable de nous accorder au travers de sa parole. Je ne vous demande plus si vous avez vos Bibles, est-ce que vous pouvez les brandir, s'il vous plaît? Oh là là, il y a des bleus, des vertes et des pas mûrs. Gloire à Dieu, on va ouvrir la parole de Dieu. On a un thème eh bien, qui va nous suivre tout au long de cette année, que ton règne vienne. Et s'il y avait un titre à donner eh bien, à ce message de ce matin, c'est eh bien, que Dieu désire régner où ? Sur ton cœur, mon frère, ma sœur. Il désire régner sur notre cœur, sur mon cœur ce matin. S'il y a bien un lieu où Dieu désire régner, c'est bel et bien sur le trône de notre cœur. Et on comprend pourquoi, à un moment donné, saisi par le Saint-Esprit, Salomon eh bien, pourra dire dans le livre des Proverbes, chapitre 23 et le verset 26, la déclaration suivante, « Mon fils, on aurait pu aussi rajouter ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Dieu n'a pas dit « Mon fils, ma fille, donne-moi tes biens, donne-moi tes richesses, donne-moi ton or. » Non, il dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ce matin ton cœur. » Et Dieu a bien nous fait une telle demande ce matin parce qu'il sait que la place, que le cœur a une place, j'ai envie de dire, prépondérante dans notre existence. Le cœur a une place centrale, on va dire, dans l'existence humaine. Le cœur physique joue un rôle des plus capitales, cet organe qui reste encore un mystère pour nos scientifiques. Comment le cœur arrive à battre comme ça, sans aucune pile ? Sans aucune pile Duracell ou alcaline, quelle que soit la marque ? Mais comme cela, pendant toute une vie, eh bien, le cœur va faire un travail capital et sa principale fonction, vous le savez, c'est pouvoir d'assurer la circulation du sang eh bien, dans notre organisme humain. Sans cœur, pas de vie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Quand on regarde dans la Bible, eh bien, le cœur est aussi considéré comme le centre, j'ai envie de dire, le centre de l'être humain. Et c'est pour cela, d'ailleurs, encore à nouveau, Salomon va dire cette déclaration, Proverbes chapitre 4 et le verset 23, cette fois-ci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi ? Car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, au sens figuré, c'est, j'ai envie de dire, le centre de contrôle eh bien, de notre personnalité humaine. Le centre de contrôle de nos pensées, de nos raisonnements. C'est avec le cœur que réellement on réfléchit. D'ailleurs, la Bible nous rappelle, l'auteur du livre d'Hébreux nous rappelle que eh bien, la parole de Dieu est tellement efficace et vivante, elle est capable de juger et même les pensées les plus profondes de nos cœurs. C'est aussi avec le cœur eh bien, que nous pouvons prendre de bonnes résolutions. Vous savez, c'est jamais avec la tête qu'on prend de bonnes résolutions. Peut-être machinalement, on est au début de l'année, tiens, ben alors j'arrête ça. Mais si nous prenons une résolution au niveau de notre cœur, c'est tout à fait différent. Un exemple, Paul, quand il parle des dons et des libéralités, il va dire la chose suivante, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, vous pouvez le lire tout simplement, c'est affiché, que chacun donne comme il a résolu, où ? Dans sa tête ? Ou dans son cœur ? Comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que dire encore du cœur sur le plan, bien sûr, spirituel ou au sens figuré ? Eh bien, le cœur est aussi le centre de contrôle de notre vie émotionnelle, notre vie affective, notre vie psychique. C'est avec le cœur que l'on choisit d'aimer ou de haïr. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On en fait une déclaration, « Je t'aime, chérie, de tout mon cœur ». Mais quand on haït, c'est toujours pareil aussi. Quand Jésus a rappelé à qui voulait bien l'entendre le premier, le plus grand des commandements, il va dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». En parlant d'émotion, et ça nous renvoie déjà deux dimanches, déjà quand j'ai parlé, traité sur le thème des inquiétudes, c'est avec le cœur qu'on choisit d'être inquiet ou pas. Jésus va dire d'ailleurs à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point ». Et je pourrais rallonger la liste comme cela. Tous ces exemples nous démontrent bien que le cœur a une place importante dans l'existence humaine. Et c'est pour cette raison que ce matin, eh bien, le Seigneur aimerait que nous puissions lui offrir notre cœur. J'ai beaucoup aimé les chants, vous l'avez compris. J'ai l'impression que le frère il a regardé sur mes notes. je te donne mon cœur. Mais c'est une chose de le dire. C'en est une autre, eh bien, de pouvoir le vivre. Ah mais Joël, tu sais pas, tu t'adresses à des chrétiens ce matin. Nous, on a la facilité de pouvoir donner et puis quelquefois de reprendre. Et on a besoin, comme le frère l'a si bien dit, de déplacer toute notre vie et quelque part, eh bien, tout notre être, eh bien, essentiellement notre cœur, eh bien, sur l'autel de notre Seigneur et lui offrir ce cœur. Alléluia. Dieu sait que si nous lui offrons notre cœur, alors il aura tout le reste. Et de même, et nous arrivons bien sûr à notre sujet d'aujourd'hui, si nous offrons pleinement notre cœur à Dieu, alors ce dernier régnera sur nos vies. Est-ce que c'est notre volonté, ce matin, que Dieu puisse régner réellement sur nos cœurs, frères et sœurs ? Il y en a, ça ne va pas intéresser. Il y en a, ils aimeraient entendre autre chose. Pourtant, je voudrais tellement bien partager ce que Dieu me dit, de dire autrement, je ne serais pas serviteur de Dieu ce matin. Et je suis convaincu, vous l'avez entendu, même au travers des dons spirituels, au travers de tout ce qui a été dit, même au travers de l'introduction de la parole de Dieu, a été fait mention de cœur. Et le Saint-Esprit a une ligne conductrice, il sait très bien ce qu'il fait. Et l'ennemi essaie de mettre le trouble, mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Entendons ce que Dieu dit, et n'endurcissons pas notre cœur comme ça a été rappelé. Sous quoi, eh bien, sous peine, nous ne pourrons pas entrer dans le pays promis. Pour le peuple hébreu, c'était Canaan, mais pour nous, c'est la cité céleste. Dieu te dit, mon frère, ma sœur, ce matin, il faut impérativement, alléluia, que tu lui offres ton cœur, afin qu'en retour, le Seigneur puisse pleinement y régner. Si Dieu règne sur nos cœurs, alors il devient notre capitaine. Il prend le gouvernail de notre vie. On est conduit, on n'est pas errant, mais on sait où on va, on sait d'où on vient, on sait qui nous sommes et on sait où on va. Alors la question qui va nous intéresser ce matin, pourquoi Dieu désire-t-il régner sur notre vie ? Bonne question. Pourquoi finalement Dieu veut régner bien sur mon cœur ce matin ? Alors j'ai trois réponses pour vous et je pense que vous serez assez patients pour pouvoir entendre ces trois réponses. Comprenez que la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai retenu juste trois réponses. La première, Dieu désire régner sur notre cœur afin de travailler à notre bonheur. Je l'ai dit certainement en introduction et je le redis maintenant, le Seigneur que nous servons n'est pas un tyran. Ce n'est pas celui qui force les portes. Et s'il désire régner sur notre cœur, il faut volontairement que nous puissions lui ouvrir la porte et le laisser entrer comme eh bien, ce puissant roi de gloire. Le Dieu eh bien, que nous servons et qui se propose d'être notre roi est non pas un Dieu inique ou despote, ce n'est pas un dictateur. Mais le Dieu qu'on sert, eh bien, c'est un roi juste, c'est un roi bon, qui aime l'équité. Un verset parmi tant d'autres, psaume chapitre 45, versets 7 et 8. Je vous laisse le temps de le chercher, celui-là. Psaume chapitre 45, versets 7 et 8. Regardez ce qu'il est dit concernant notre Dieu, qui est notre roi, mais aussi concernant sa royauté et de quelle manière il gère eh bien, et il dirige, bien sûr, son royaume. Psaume chapitre 45, les versets 7 et 8. « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Dieu, il est un Dieu juste. Et pour nous, c'est rassurant. Il est bon. Il est parmi nous ce matin par son esprit. Mais nous savons aussi que le Dieu que nous servons et qui se propose d'être notre roi, le roi sur notre cœur, c'est aussi un Dieu qui est aimant. Il est plein d'amour. Et parce qu'il nous aime, il veut notre bien. Et quand allons-nous réellement comprendre que Dieu désire notre bien ? Il désire travailler à notre bonheur. Et pour ce faire, eh bien Dieu en tant que roi, il a établi eh bien des lois divines sur tout son royaume. Et il demande à tous ses sujets de pouvoir eh bien, tout simplement mettre en pratique ces mêmes lois et ces commandements. Des passages, il y en a eh bien, plusieurs dans la Bible, Deutéronome chapitre 4, verset 40, ne le cherchez pas, il nous est dit, Deutéronome chapitre 4, verset 40, « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. » Et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et il nous faut comprendre ce matin que tous les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. C'est jamais pour notre malheur. Regardez, observez, prenez le temps d'observer. Toutes les lois, les commandements de Dieu sont en rapport avec l'amour. Amen ou pas amen ? Sont en rapport avec l'amour, sont en rapport avec le pardon, sont en rapport avec la bénédiction. Elle nous invite à bien à vivre en paix, nous invite à faire le bien autour de nous. Et toutes ces choses sont bénéfiques pour nous. C'est pour notre bonheur qu'il nous demande à bien de suivre à bien ses lois. Le prophète Ésaïe a dit en son temps ce soupir qui est finalement le soupir de Dieu. Ésaïe chapitre 48 et le verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, mon fils, ma fille, ce matin, ton bien-être. » D'autres versions disent « Ton bonheur serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Dieu veut nous bénir, frères et sœurs. Dieu veut nous combler. Et il veut le faire parce que, eh bien, il nous aime. Et finalement, permettre que Dieu règne sur notre cœur, eh bien, c'est, excusez-moi l'expression, c'est nous donner l'occasion d'être heureux. Mais la question est la suivante, est-ce que nous le voulons réellement ? Vous savez, il y a un constat qui est très grave que le prophète, cette fois-ci, Jérémie, a fait en son temps, et qui concernait le peuple d'Israël, mais j'ai l'impression eh bien, qu'on peut aussi faire ce constat encore aujourd'hui au XXIe siècle. Quel est ce constat ? Ésaïe, chapitre 42, verset 21, et les versets 22, Ésaïe 42, versets 21 et 22. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'est ce que je confirmais tout à l'heure. Pourtant, le constat est le suivant. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Et croyez-moi, quand le prophète a reçu ces paroles de la part de Dieu, c'est certainement avec larmes, eh bien qu'il était en train de pouvoir les écrire ou les exprimer eh bien aux oreilles du peuple. Et on sait de quelle manière tout le peuple d'Israël, même à deux reprises, est parti en captivité. La deuxième a été plus courte, mais peut-être plus dure. Quand tout le peuple d'Israël a été mené jusqu'à eh bien, à Babylone. Dieu avait prévu un bonheur pour son peuple. Mais parce que, eh bien, ils ont regardé, même dans le contexte et dans les versets suivants, eh bien, on voit bien que c'est à cause de la désobéissance du peuple de Dieu, c'est à cause de sa rébellion par rapport aux lois qu'ils se sont retrouvés à être un peuple pillé et dépouillé, enchaîné dans des cavernes, plongé dans des cachots. Combien de chrétiens au jour d'aujourd'hui sont plongés dans des cachots ? Et les cachots peuvent avoir plusieurs noms. Ça peut être le cachot de l'amertume, ça peut être le cachot de la haine. Et ce matin, on peut continuer à louer le Seigneur. Pourtant, on sait qu'il y a une lutte, une résistance qui est au plus profond de notre cœur. Frères et sœurs, la source, c'est notre cœur. Et pourtant, c'est là où Dieu, alléluia, veut bien pleinement agir en ce matin. Laisse Dieu qui t'aime régner sur ton cœur, afin, mon frère, ma sœur, que tu sois heureux, afin que tu sois libre. On l'a chanté, libre, libre, libre. Mais le chanter, c'est une chose. Mais il ne faudrait pas que l'ennemi puisse se moquer de nous et nous montrer la chaîne avec laquelle il nous tient. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Acceptons de la part de Dieu. Je ne me mets pas en retrait, je me parle à moi-même. Et c'est juste une introduction à bien ce temps de jeûne et de prière, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, Dieu désire régner sur ton cœur, mon frère, ma sœur, afin de travailler à ton bonheur. Et justement, c'est pour nous également une deuxième réponse que je voudrais introduire maintenant. Eh bien, Dieu désire régner sur notre cœur afin de purifier ce dernier de toute forme de souillure. Amen ou pas amen ? Pour cela, si on ne le laisse pas entrer, il ne pourra pas pleinement agir. C'est de l'intérieur qu'il va agir. Il faut d'abord des changements de l'intérieur au niveau du cœur pour qu'après ça se reflète sur l'extérieur. Et depuis le péché originel, le cœur de l'homme, il a été, excusez-moi l'expression, contaminé par un mal qu'on appelle communément péché. Ce qui fait l'une des journaux ces temps-ci, c'est cette contamination qui a commencé sur le pays de Chine et qui est arrivée même jusqu'à nos portes puisqu'en France, on a retrouvé des cas et ça ne cesse de grandir. Je crois que c'est eh bien, ce virus, le coronavirus, si je ne m'abuse. Mais le péché, lui, a contaminé dès le départ tout le genre humain. Personne ne peut dire, bah, tiens, moi je suis exempt de tout péché. Il y a un seul qui a pu le dire, c'est Jésus. et à lui soit toute la gloire. Tout le genre humain a été contaminé. Ah bien, et j'ai envie de dire, à sa source. Le diable, il est malin. Il a semé, ah bien, là où se trouvent les sources de la vie. Il a souillé le cœur de l'homme. Et c'est à cause de cela que nous avons tous hérité d'une nature pécheresse. Et c'est pour cela que Jésus dit autre part, Matthieu 15, versets 19 et 20. Si vous êtes rapide, cherchez-le dans votre propre Bible. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Il y avait une polémique. Certains disaient, il faut que, mais comment tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, etc. Il y avait une polémique. Jésus a calmé tout ça. Et c'est bien quand le Seigneur parle et il remet tout d'équerre. Et il va dire, Matthieu chapitre 15, versets 19 et 20, si on peut l'avoir sur l'écran, c'est super, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, autrement dit les mensonges, les calomnies. Voilà les choses qui, au final, souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Et affranchissons-nous de toutes ces polémiques, mettre ou pas le voile, manger ou prendre la coupe avec une seule coupe ou bien avec des petits gobelets. Frères et sœurs, Jésus est en train de nous dire, c'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est au niveau de ton cœur, mon frère, ma sœur. Là où se trouve, où pourraient se trouver des souillures que le Seigneur lui-même, eh bien, si tu le laisses régner sur ton cœur, eh bien, est capable et en mesure de pouvoir ôter. Et toutes ces souillures, nous ne pouvons pas les ôter par nous-mêmes. Allez prendre le plus gros savon, même le plus efficace, celui de Marseille. C'est pas nécessaire. C'est pas utile. Il ne sera même pas efficace. Tous nos efforts et toutes nos intentions ou résolutions les plus sincères ne peuvent rien contre ce mal. Frères et sœurs, soyons clairs, c'est pas le problème de la société. Hein. Le vrai problème, c'est pas la société. C'est pas nos politiques. C'est pas de changer de président. C'est encore moins le chien du voisin. C'est pas ta machine à laver, frères et sœurs, le problème. C'est encore moins ton frère, ta sœur, le problème. Le problème, au niveau général, c'est le cœur de l'homme. Et en particulier, c'est ton cœur qui a besoin d'être changé. Vous savez, si vous voulez enlever une toile d'araignée et vous la voyez constamment, vous l'enlevez. Et puis le lendemain, vous revoyez la toile d'araignée. Vous l'enlevez. Le troisième jour, vous l'enlevez. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et dire, on va attaquer le mal à sa source. Et la source, ce n'est pas la toile d'araignée, mais chercher celui qui tisse la toile d'araignée. Et quand vous tuez l'araignée, vous n'avez plus de toile. Le cœur. Voilà ce que le Seigneur est en mesure de purifier. Nous ne sommes pas capables de le faire, mais Dieu est capable parfaitement de purifier notre cœur. Et bonne nouvelle, c'est son désir. Un texte que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 et 26. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai quoi ? Un cœur tendre, un cœur de chair. Et nous savons comment Dieu, s'y est pris, il y a déjà 2000 ans de cela, il a envoyé son propre fils unique, celui qui était sans défaut, sans tache, celui qui a accepté de gravir ce mont qu'on appelle Golgotha. Et à cause et en vertu de son sang qui a coulé sur la croix, nous pouvons être purifier, laver. C'est le sang de Jésus qui est en mesure de nous purifier ce matin. Je sais qui j'étais avant de connaître le Seigneur. Il y a des choses, quand je m'en rappelle, je ne suis pas fier du tout. Mais je sais une chose, le sang de Jésus m'a purifié, m'a lavé de tout péché. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce matin, mon frère, ma soeur, et peut-être toi, ami, qui viendrait pour là où les premières fois, le sang de Jésus est en mesure également, alléluia, de te purifier de toute iniquité, de tout péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Au-delà des miracles qu'il a pu faire, au-delà des choses extraordinaires, la ressuscité des morts, il est venu pour une seule chose en particulier. Il est venu pour régler la question du péché. Il est venu par son sang purifier et pardonner nos fautes et nos péchés. Vous savez, à la croix, ce que Jésus a fait, d'un côté, il a satisfait la justice de Dieu et d'un autre côté, parallèlement, il a révélé l'amour que Dieu avait pour chacun d'entre nous. parce qu'il ne voulait pas que nous soyons dans ce lieu de tourment, de perdition qu'on appelle communément enfer, mais il a voulu que nous puissions vivre toute cette éternité avec lui. On ne mérite pas le ciel, frères et sœurs. On ne peut pas gagner le ciel. Par contre, le ciel nous est proposé. Le ciel nous est offert. Et Dieu, par ses mains, percées, nous ouvre le ciel. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. David, qui était à un moment donné conscient de son péché, vous savez qu'il a commis l'adultère avec une certaine Bathsheba, a dit une magnifique prière. Vous connaissez tous le psaume 51. Qui ne connaît pas le psaume 51 ? Personne n'ose lever la main. Psaume 51, juste le verset 12, regardez ce qu'il dit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et le verbe hébreu qui a été traduit en français par créer, nous retrouvons ce même verbe hébreu au premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Et le Dieu créateur qui a créé le ciel, la terre, est en mesure, et lui seul est en mesure de pouvoir créer au-dedans de nous un nouveau cœur. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais c'est mon désir personnel, au travers de ces temps de jeûne et de prière, que Dieu m'accorde ce miracle de pouvoir voir tout à nouveau ce cœur nouveau que seul lui est capable de m'apporter se manifester. Vous savez, quand on a un cœur neuf, on voit les choses différemment. On a notre vision, on a notre regard, on est en paix. Notre cœur est chargé de l'amour de Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de créer en nous un cœur pur, pourvu bien sûr que nous le laissions pleinement régner sur notre cœur. Et puisse ce temps de jeûne et de prière qui va commencer demain nous permettre de nous humilier et de prendre ce temps devant Dieu. Vous savez, je fais un constat avec vous. Quand je regarde dans la Bible, à partir du premier chapitre, du premier livre de la Bible, on voit que l'homme est sans cesse en fuite. Adam, après son péché, était en fuite. Il a fallu que Dieu puisse le poursuivre et lui dire « Mais où es-tu ?» Mais quand on tourne encore les pages et on découvre avec l'histoire de Jacob. Jacob, il a passé sa vie à fuir. Il a fui sa famille, mais après, il a voulu fuir un problème qui devait être réglé devant Dieu. Et c'est le même cas pour Jonas. Jonas a voulu fuir un ordre, mais quelque part, il a voulu fuir un problème que Dieu voulait régler dans son cœur. Il avait de la haine pour les ennemis du peuple d'Israël. Alors que Dieu nous demande de pouvoir même aimer nos ennemis, certains redoutent le silence. Et ils s'étourdissent avec toutes sortes de bruits. Et j'ai beaucoup aimé quand il est dit, de pouvoir, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Oui, ça a été dit même dans le don spirituel. Ce n'est pas dans le fracas, ce n'est pas dans le bruit que quelquefois Dieu veut nous parler, mais c'est dans le silence, d'un cœur à cœur, d'un face à face avec Dieu. Accepte, mon frère, ma sœur, ce face à face et arrête de courir, parce que c'est ça le problème. Et je l'ai donné comme exemple il y a déjà deux dimanches de cela, quand j'ai parlé, donné l'exemple de Marthe. Mais j'y reviens. Pourquoi le Seigneur a insisté, Marthe, à deux reprises ? Parce que certainement la première fois, Marthe n'a pas compris. Marthe était en train de déballer tout son cœur. Marthe, mais elle n'entendait pas. Et Jésus a été obligé de continuer. Marthe, et là, elle a été saisie. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, que tu vois là, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je prends ce passage dans Ésaïe chapitre 30. Alors je vous laisse le temps de le chercher. Ésaïe chapitre 30, regardez avec moi. C'est un conseil que Dieu donne à quelqu'un ce matin qui s'agite beaucoup, qui court. Ésaïe chapitre 30, les versets 15 et 16. Je vous laisse le temps de le chercher. Vous puissiez placer la Bible devant vos yeux. Ésaïe chapitre 30, le verset 15 et 16, début du verset 16. Mais nous lisons ensemble. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Mon fils, ma fille, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais malheureusement, encore un autre constat négatif, mais vous ne l'avez pas voulu. Et le début du verset 16 nous dit la chose suivante. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Alors bien sûr, peut-être ce n'est pas un cheval physique. mais peut-être que c'est les différents chevaux qui se trouvent sous le capot de votre voiture et qui vous poussent à courir à droite à gauche, trouver une solution auprès d'un frère, auprès d'un je sais pas, toutes sortes de choses. Frère, c'est peut-être la solution, c'est peut-être dans le secret de ta chambre que tu vas entendre la voix de Dieu te dire arrête. Et ce que Dieu commence à faire, c'est nous poser, c'est qu'on soit calme. On est trop agité, on veut faire. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour se placer devant Dieu. Lorsque nous nous posons et nous laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs et à notre conscience, alors Dieu, par son Esprit, peut enfin, j'ai envie de dire, enfin nous parler et même nous conduire sur le terrain de la repentance. La repentance est un passage obligé. Il y en a qui, à un moment donné, même après des années de conversion, pensent qu'ils peuvent s'affranchir de ces temps de repentance. Mais on a besoin de la repentance chaque jour. Et autant, à bien que cela est nécessaire, il nous faut renouveler à bien cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Si David, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, a pu le dire en son temps, c'est important à nous aussi de pouvoir arrêter de regarder les défauts de l'autre. Mais savoir se dire, mais Seigneur, il y a peut-être aussi certainement des défauts chez moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou j'invente des choses? Mais on ne veut pas ce face-à-face. Alors il faut trouver une victime. Si ce n'est pas le pasteur, c'est le frère ou la sœur, ou peut-être c'est le conjoint, ou c'est les enfants. C'est à cause de. Acceptons ce face-à-face et laissons Dieu, alléluia, nous purifier. Je crois que cette prière... Donc, doit se retrouver sur nos lèvres toutes les fois que c'est nécessaire. Car un cœur pur, vous savez, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle attire. Elle attire la faveur, les bénédictions de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume chapitre 73, verset 1. Psaume chapitre 73, verset 1. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et Dieu veut manifester sa bonté sur son peuple encore ce matin. Avoir un cœur pur est aussi la condition pour voir Dieu. Jésus l'a dit au travers de ses béatitudes, Matthieu chapitre 5, verset 8. Il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Oui, Dieu désire régner sur notre cœur afin de purifier ce dernier de toute forme de souillure. Et je voudrais terminer avec une troisième réponse. Dieu désire régner sur notre cœur afin de le remplir de ses grâces et de ses bénédictions. Amen. J'aurais mis un ton un peu plus grand. Amen. Hein. Mais je n'ai pas parlé assez fort, je sais, c'est moi. Mais un coup pas. Je répète. Hein. Dieu désire régner sur notre cœur afin de le remplir de ses grâces et de ses bénédictions. C'est un désir de Dieu. Pèse à Dieu, un dimanche, on est là et on est comme arrêté dans le déroulement normal du culte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne à être débordants ce matin. Dieu veut nous remplir. Vous savez, dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. À deux catégories, personnes, mais des personnes extrêmes. Il y a ceux qui sont vides. Ils sentent un profond vide au-dedans d'eux. Et ils essayent par toutes sortes de moyens de combler ce vide qui n'arrive pas. Parce que quelqu'un a dit à juste titre, eh bien, le vide qui se trouve dans le cœur de l'homme, seul Dieu est capable de le combler. Il a la forme de Dieu même. Et puis, à l'extrême, eh bien, il y en a qui sont remplis. Mais malheureusement, ils sont remplis. Ils sont remplis de tristesse. Ils sont remplis d'amertume, d'angoisse. Et d'ailleurs, même qu'on les entend eh bien, parler, c'est cette tristesse, cette amertume, cette angoisse qui ressort eh bien, de leur bouche. Certains sont pleins de suffisance et d'arrogance. D'autres eh bien, sont pleins de déception et de frustration. Ce sont des réalités que je suis en train de vous dire là. Mais la bonne nouvelle ce matin, pour toi, mon frère, ma sœur, Dieu ton roi désire remplir ton cœur de ses grâces et ses bénédictions. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Voilà la solution pour notre cœur. Être abondamment arrosé par la puissance du Saint-Esprit. On l'a aussi partagé en son temps quand on a repris le psaume 23, ô combien connu. Et à un moment donné, David va dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors là, il y a une relation de cause à effet. Il faut d'abord que ma tête soit ointe du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, pour qu'en retour, ma coupe puisse déborder. Dieu veut ce matin, mon frère, ma sœur, que tu sois débordant de la puissance du Saint-Esprit, que tu sois débordant de joie, débordant de paix, débordant d'amour, de douceur, de sagesse. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, quand le maire, monsieur le maire de notre ville a dit « mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à identifier ou à pouvoir eh bien, expliquer cette joie que je vois sur vos visages. » Les gens voient cette joie et la joie de l'Éternel sera ta force, mon frère, ma sœur. Et cette joie, il faut qu'elle soit débordante, mais il faut déjà eh bien, qu'elle puisse remplir ton cœur. Dieu veut qu'on soit débordant de sa grâce. La Bible dit, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Une surabondance de grâce. On en est, dans le bon sens du terme, noyé. Après tout, Jésus, notre bon berger, n'a-t-il pas prévu pour ses enfants une vie en abondance ? Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit la chose suivante. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est l'œuvre du malin, du diable. Saper notre joie, saper notre foi, saper eh bien, notre morale. Et on a besoin d'être des chrétiens et des chrétiennes enthousiastes. Mais le voleur, il vient et il sape toutes ces choses avec les problèmes, les vicissitudes et puis les adversités de la vie. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut te combler, Dieu veut te bénir. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'abondance. Et il te dit, pour cela, mon frère, ma sœur, il faut que je règne sur ton cœur. Je ne suis pas en train de remettre en cause notre conversion. Je suis en train de dire que quelquefois, eh bien, nous donnons, excusez-moi l'expression, des strapontins pour le Seigneur. Mais il a besoin de régner sur le trône de notre cœur. Il a besoin d'avoir la première place. Et c'est parce que quelquefois, on l'a déclassé à la deuxième, voire à la troisième place, eh bien, qu'on se trouve encore eh bien, pauvre et malheureux eh bien, ce matin. Dieu réclame notre cœur afin d'y régner en roi. Et Dieu désire régner sur notre cœur, et on l'a vu ensemble, parce qu'il sait comment nous rendre heureux. Mais Dieu désire aussi régner sur notre cœur afin eh bien, de purifier, car lui seul est capable et en mesure de le faire, purifier notre cœur de toute forme de souillure. Et afin qu'en retour, il puisse le remplir de belles et merveilleuses choses, de ses grâces, de ses bénédictions spirituelles et éternelles. Alors plus que jamais, voilà ma conclusion. Ouvrons les portes de notre cœur et laissons entrer le roi de gloire. Ouvrons les portes de notre cœur. Il n'y a que quelqu'un a dit, notre cœur a une porte, mais le problème de cette porte, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de l'intérieur. Et quand Jésus frappe à l'extérieur de cette porte, eh bien, et quand il veut entrer, c'est à nous de pouvoir actionner la poignée pour le laisser entrer. Laisse entrer. Alléluia, ton Dieu qui désire être ce roi qui va régner sur toute ta vie et sur celle de ta famille. Regardez ce dernier psaume, et on va terminer par cela, psaume chapitre 24, versets 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et on peut assimiler cette porte, entre autres, à notre cœur. Et on a besoin d'élever les linteaux, parce que celui qui veut rentrer, c'est un grand roi. C'est l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous, celui qui est capable d'ouvrir la marche et fermer notre marche. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les cours. Vous savez, quand Dieu apparaît dans une vie, le diable s'enfuit. Il ne peut pas faire autrement. La lumière chassera toujours les ténèbres. Éteignez-moi la lumière, vous allez comprendre. Eh oui ! Verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen et amen. Seigneur, mon Dieu, nous voici devant toi. Et plus que jamais, d'une même voix, nous avons besoin de reconsidérer, Seigneur, ta personne vis-à-vis de notre cœur. Oui, tu nous rappelles ce matin que tu veux notre cœur afin de le changer. Afin que, Seigneur, ce même cœur puisse être transformé en ton image. Afin que nous soyons, tout comme David, appelés un homme, une femme, selon ton cœur. Afin que tu puisses nous rendre heureux, afin que tu puisses pleinement, Seigneur, purifier tout ce qui a encore besoin d'être purifié au plus profond de nous-mêmes. Afin que de ce cœur, tu fasses déborder des choses glorieuses qui seront une bénédiction pour tous ceux qui seront à notre contact. Tu sais qui devait être là ce matin. Tu sais à qui tu veux parler ce matin. Et je te prie, Seigneur, de nous préparer les uns les autres pour cette rencontre, ce face-à-face que tu veux avoir avec nous au travers de ces 4 jours de jeûne. Certains ne pourront pas être là physiquement, mais peut-être le seront-ils avec nous en esprit, ou peut-être le feront-ils dans le secret de leur chambre. Peu importe. Toi qui regardes le cœur, et jamais à l'apparence, tu seras à venir au-devant de ceux et de celles qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, je te prie que pendant ces temps de jeûne de prière, qu'il y ait des grâces, des délivrances, que plusieurs puissent sortir de leur cachot, que plusieurs puissent être délivrés, Seigneur Père éternel, et puissent chanter ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Oui, libre, libre, libre. Tu vois ceux et celles qui sont en lutte. Tu vois ceux et celles qui refoulent, qui fuient ta présence. Mais tu les devances et tu les attends là où ils pensent se cacher. Parce que tu nous aimes. Parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu juste, c'est vrai. Mais tu es un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Bénis nos cœurs en ce matin au travers de ce que tu veux nous dire. Et comme, Seigneur, nous l'avons entendu tout à l'heure, que nous n'ayons pas des cœurs qui s'endurcissent devant toi afin de ne pas être disqualifiés. Fais grâce, Seigneur. Prépare nos cœurs dès à présent. Prends le contrôle de tout ce qui va se faire. L'ennemi tremble déjà. Alléluia. Et Seigneur, nous attendons à toi. Pour que, Seigneur, tu nous surprennes, pour que tu nous dépasses. Prends le contrôle par le Saint-Esprit de tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire au nom de Jésus. Père, pour la gloire de ton nom. Amen.